à 1h du matin. C'est pas pire pour tout.
Conditions actuelles, 24 degrés.
Pas pire audacieuse, c'est Félix 95.5 FM.
J'ai un fils enragé. Qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples sa finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus...
Et toujours sur cette ère de Félix Toutler, le grand Félix Toutler. Bien sûr, le Ouest en colère montre la colère aussi des locataires et aussi des gens qui sont brimés par le système. Alors, bienvenue à cette émission Logement et droit en ce 19 juin 2025, la dernière de la saison. Prendre une pause. Pas que l'actualité prend des pauses, évidemment, on peut, bien sûr... Je ne vous apprends pas, si vous ne saviez pas, c'est parce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas écouté la télévision, les radios, n'importe quoi. Cette petite fille de 3 ans, bien sûr, qui a attiré tout l'amour du Québec et peut-être même une partie du Canada aussi, bien, elle a été heureusement retrouvée vivante. Bien sûr, ça n'a pas lié avec le logement, vous allez me dire, mais avec tout le système, bon... On peut parler aussi peut-être de la détresse parentale, parce que là, il n'est quand même pas clair tout ce qui se passe comme tel. Également aussi, ben tout à l'heure, justement, si vous avez été sur ma page Facebook, Alain Roy, ou celle de l'Association locataire, ou d'autres pages Facebook, ce matin, je suis allé faire un tour à la Chaudronnée, qui offre des repas aux personnes seules, justement en situation de poids. Avec un petit montant, ils peuvent se manger à leur faim, et à cause justement de tout ce qui est autour, logement et tout ça. Alors, donc, il y avait une présentation des intervenantes qui étaient là, présentées comme le 21, c'est la journée nationale des Autochtones, ben, solstice d'été, présentait différents petits films présentés par le Festival national du film, en lien aussi avec Télé-Québec, entre autres. Avec Joséphine Bacon, qui est une des grandes sommités au niveau des Autochtones, aussi sur la langue. Puis, évidemment, justement, la langue, les langues maternelles, les langues originelles qui se sont perdues et se retrouvent évidemment avec une nouvelle génération. On sait évidemment que ceux et celles qui avaient des ascendances autochtones, ça a été réprimé, hein? Oui, par les églises, par les gouvernements. Je disais une couple d'affaires, justement, actuellement, là, il y a un projet de loi fédérale qui écoute pas du tout les peuples autochtones, M. Carney, puis aussi Doug Ford, aussi, qui est très méprisant envers les peuples autochtones, là, comme tel, dans une de ses allocutions, je disais ça sur Facebook. Alors donc, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. Également aussi, ben justement, le gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme systémique, on sait qu'évidemment, il y a encore énormément de choses à faire. Et si moi, il y a quelqu'un qui respecte les peuples autochtones, c'est nos bâtisseurs. On est actuellement sur un territoire non cédé. Hein? Ce territoire-là, Wabanaki. Alors... appartient toujours au peuple. Juste avant d'aller à la musique, je vais vous présenter ce qui s'en vient dans la première demi-heure. La deuxième, j'aurai Mario Mercier, l'Association locataire. Justement, dans cette dernière de la saison, on va faire le résumé un petit peu de ce qui s'est passé ou de tout ce qui touche le logement. Une année bien remplie comme telle, du moins depuis l'automne dernier. Et évidemment, aussi ce qui s'en vient, des élections qui s'en viennent, qui disent. Hein? Bon. Mais avant d'aller, justement, je ne vais pas oublier, il y a bien sûr... l'aide humanitaire à Gaza, des gens, évidemment, qui meurent de faim, des gens qui, en allant chercher de la nourriture, ils se font tuer. Ils n'ont pas de bombe dans leurs mains, M. Netanyahou, là, hein? Hein? Alors, et demain, entre autres, il y a eu dernièrement, justement, jeudi dernier, justement, il y avait un rassemblement, justement, pour aller un peu pour sensibiliser la population. Et demain, demain vendredi, 17h30, au marché de la gare de Sherbrooke, il y a prise de parole par le groupe de qui soutient, bien sûr, Gaza, et qui suit à Gaza parce que c'est les enfants, c'est les personnes qui meurent de faim. Là. On ne parle pas de gouvernement ou autre chose. Là. C'est épouvantable. Il y aura prise de parole, il y aura une marche du marché de la gare jusqu'au centre-ville. Arrêté au coin de King Belvedere, où souvent aussi plusieurs actions, entre autres, pas une de plus se fait. Et aussi, il y aura la distribution de tracts au centre-ville, donc demain. Pour venir, justement, on va aller en musique. Et c'est curieux, lorsqu'il y avait la présentation, le dernier petit film qui était présenté, il y avait Mike Paul. Mike Paul, qui est un artiste, bien sûr, Inou. Et comme vous savez peut-être aussi, je fais de la musique country. Et il embarque dans mon programmation. D'ailleurs, samedi, vous écoutez du country, vous pourrez écouter ou le découvrir. Samedi le 21, journée justement des Autochtones, il y aura un spécial été et aussi Autochtones. Et Mike Paul, j'aurai de ses chansons. Mais pour l'instant, justement, c'est un gars très engagé et je devrais savoir là, pour samedi justement ses nouvelles chansons. Mais pour l'instant, La croisée des chemins. Puis je vous présentais aussi et. Justement, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a Maïka Sondarji qui est venue pour invité par l'Association locataire de Sherbrooke sur le thème du racisme. Ben, justement, et puis justement, elle est bien contente de repasser cette entrevue. Elle a répondu sur ma page Facebook. Elle m'a remercié de l'invitation qu'elle avait faite. On la voit bien sûr à RDI avec des grands personnages comme M. Filion, là, comme tel. Et justement, je pense que son analyse en cette période aussi où on voit plein de conflits comme tel, ben venait bien pour débuter cette première demi-heure. Donc, en musique, et ensuite, on réécoute magnifique entrevue avec cette grande spécialiste et aussi une femme qui est bien adapté à notre époque, Maïka. Alors, on écoute donc, et ensuite, on vous revient avec Mario Mercier, la deuxième demi-heure de cette émission Logement et droit du 19 juin 2025.
Un autre jour qui s'éveille. Tous les peuples de la terre. Kawapen, où t'es, où t'es. Est-ce peut-être comme Katasi à la croisée des chemins. La vilité n'aura pas de lendemain. Avons-nous oublié ce lien entre l'homme et la terre, des splendeurs, des montagnes et des rivières? Tout ce qu'a reste du vent, ton matin de Yeah.
Kahoun, petit état. Tu m'as que l'âme nous dans ce monde éphémère, nous ne voyons plus très clair. La petite quoi, petit tout man, mais c'est à l'oudem. Assume esta discomi. Avons-nous oublié ce lien entre l'homme et la terre, des splendeurs, des montagnes et des rivières, mais tout ce qu'il y a reste vivant. Matin de
Alors, l'émission Logement droit, ce matin, on est en avance un peu avant que l'émission soit diffusée comme telle, mais on a le plaisir et le grand honneur de recevoir avec nous Maïka Sondarji. Bonjour à vous, Maïka, je peux vous appeler par votre prénom?
Ben oui, c'est parfait, merci, bonjour.
Et j'ai été parmi les chanceux, les dizaines de personnes qui, le 8 février dernier, ont assisté à votre conférence à l'invitation de l'Association des locataires de Sherbrooke. Peut-être un peu pourquoi, que pour les gens qui ont manqué ce beau rendez-vous-là, peut-être un peu le pourquoi et qu'était le contenu de cette rencontre-là?
Bien, c'est super intéressant parce que moi, j'ai publié un livre récemment sur la mixité raciale, un peu avec en utilisant des histoires de l'immigration de ma famille de Madagascar au Québec. Puis je reviens sur des histoires de mon enfance comme petite fille moitié franco-québécoise et moitié indo-malgache. Mais l'Association des locataires a lu une lettre ouverte, une chronique que j'avais écrite pour Le Devoir, dans laquelle je parlais d'immigration, mais je disais que je contredisais, disons, le discours ambiant qui est que les immigrants volent nos logements.
Oui.
Donc c'est drôle parce que ça faisait un lien avec leur mandat, qui est de militer pour l'accès au logement, parce qu'eux aussi, là, puis je sais que vous êtes impliqué un peu avec l'organisation, eux aussi, ils pensent, ils sont d'accord avec moi que c'est pas les immigrants qui volent nos logements, c'est plutôt les politiques publiques que les gouvernements ont adoptées qui ont pas assez construit de logements, puis c'est le fait qu'on régule pas les Airbnb, il y a plein de raisons qui font ça, mais le fait vu que mon livre parlait de ça de manière plus expérientielle, ben ça nous a permis de parler d'immigration de manière plus large, puis des différentes identités qui existent au Québec, tout en essayant de déconstruire le mythe selon lequel les immigrants sont la cause de la crise du logement. C'est super intéressant.
Effectivement, et aussi, votre père est venu aussi prêter main forte, et je pense que l'expérience de quelqu'un qui est sur le terrain a permis aussi beaucoup d'ajouter à ce que vous avez donné, Maïka.
Ben tout à fait. Moi, c'était vraiment un honneur de pouvoir inviter mon père qui a donné sa première conférence publique et qui a été comme un poisson dans l'eau. Là. Il a vraiment adoré ça. Puis souvent, on invite, moi, je suis professeur d'université, on m'invite à donner des conférences, tout ça. Puis bon, on m'a demandé d'inviter mon père, j'étais très contente, mais ce qu'on réalise pas, c'est que tout le monde a quelque chose à dire de par là d'où il vient, de par son expérience. Mon père, il a dit des trucs qui, même moi qui travaille sur ces questions-là, m'ont marqué. Par exemple, on parle des immigrants, mais il dit, en fait, les gens qui arrivent ici, ils sont en période d'immigration. Puis après cette période-là, ils sont plus des immigrants. Donc souvent, au Québec, le discours est très clivé. On va parler des immigrants puis des autres. Combien d'immigrants on peut accepter? Mais là, mon père, en disant ça, il m'a fait réfléchir parce que dans le fond, t'es immigrant jusqu'à quand? Jusqu'à quand t'es considéré comme le nombre des immigrants qu'on accepte? Pendant un an? Pendant 10 ans? Donc, c'est très intéressant. Je trouvais que du fait que lui-même avait vécu l'immigration, que lui-même, avait eu des appartements à Sherbrooke, tu sais, avait habité, donc il avait une expérience là de c'est quoi finalement un immigrant qui habite ici, puis est-ce que c'est vrai que ça vole nos logements? Puis bon, c'était super intéressant.
Et justement aussi, suite à votre livre aussi, « Là où d'où je viens », qui aussi dresse un portrait, justement, de l'immigration qui est justement galvaudée, puis un peu là mis de toutes les façons par les différents paliers de gouvernement, particulièrement au Québec.
Oui, exactement. Donc, c'est le Québec a une tendance à présenter là, les différentes personnes au Québec de manière très divisée. Là, je trouve qu'il y a un discours qui présente les immigrants d'un côté, puis finalement, moi, dans mon livre, je parle de comment est-ce que je suis une immigrante, moi, est-ce que je suis issue de l'immigration, est-ce que on est plusieurs, de plus en plus au Québec à se situer entre les deux, là, entre plusieurs mondes. On se sent visé quand les gens parlent d'immigration parce que c'est nos parents, c'est nos grands-parents, mais on est aussi extrêmement québécois. Tu sais, moi, quand le gouvernement parle des immigrants qui parlent pas français, je pense à ma grand-mère qui parle pas un français parfait aujourd'hui, mais dont les enfants et les petits-enfants parlent tous français, travaillent dans plein de domaines, en pharmacie, en ingénierie, à l'université, on est commentateur dans les médias, on fait plein de choses. Donc, je pense que j'essayais en tout cas d'ouvrir une conversation ou de continuer une conversation sur ces personnes-là au Québec que le gouvernement comprend mal et que les gens en général comprennent mal. On n'a pas toute la chance là, d'avoir un indo-malgache dans notre famille. Donc, j'ose espérer que ça va ouvrir des discussions puis permettre à des gens un peu d'entrer dans notre vécu, dans notre quotidien. Je pense que la société s'en porterait mieux si on pouvait se parler de manière plus ouverte là, les uns avec les autres.
On voit par votre curriculum vitae, Maïka, quand même, là, professeur agrégé à l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa, tout ce qui est aspect international, métissage et immigration. Vous êtes aussi, au niveau des médias, très visible, là, des médias importants. On parle de RDI, on parle de SCN, on parle du Devoir. Comment c'est venu un jour? Il y a quelques années, de vous lancer dans tout ça? Là.
Bien, c'est une bonne question parce que je trouve que dans l'académique, dans l'université, en tout cas, les gens ils sortent pas souvent de la tour d'ivoire. Okay. On écrit des articles, puis là, bon, c'est lu par 3-4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, mais ça va pas très large. Puis moi, ben, j'ai un bac en journalisme. J'ai fait mes études en journalisme, après ça, à la maîtrise, puis au doctorat, je suis allée en sciences politiques, mais ça a toujours resté pour moi de vouloir démocratiser la connaissance parce que c'est très important dans les débats actuels, là, surtout avec la désinformation qui a lieu, avec les fausses nouvelles, les fake news. C'est très important d'avoir des discussions sensées sur plein de sujets. Fait que pour moi, ça a toujours dans ma pratique, tu sais, comme chercheuse, je pense que c'est important de faire de la recherche pour le grand public, pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc oui, à RDI, je vais parler à l'émission Zone Info avec Gérald Filion, on va aborder certaines thématiques pour un certain public. Mais à LCN, le matin, ça va être un autre public. Puis au Devoir, c'est une autre chose. Puis donc, tu sais, à CFLX, c'est un autre public. Donc je pense que c'est important de parler de ces choses-là. Puis parce qu'en ce moment, je trouve que les positions plus progressistes ont de la difficulté à percoler dans la population parce que on se parle entre nous. Puis on dirait que faire des événements comme ça avec l'Association des locataires à Sherbrooke ou d'autres groupes, là, je vais dans différentes villes parler avec différents groupes, c'est important parce qu'il faut vraiment qu'on se parle. Faut arrêter de penser qu'on a des bonnes idées, mais que ces idées-là vont juste par magie se propager dans la société. Tu sais, donc si moi, je parle de justice sociale, justice internationale, ben j'ose espérer que tout le monde pourrait avoir accès à ces conversations-là. Puis c'est le fun que j'aime beaucoup ça quand des gens m'invitent dans des organismes qui sont pas là, universitaires. Je pense que tout le monde devrait le faire.
Effectivement, puis aussi, bien évidemment, vous avez tout ce côté féministe. On sait encore là, malheureusement, il y a un gars l'autre bord de la frontière là, qui est ouais. qui est assez pas mal à droite. Là. Et même ici, là, les élections fédérales seront bientôt. Souvent, on prend pour acquis que le féminisme, que les femmes ont fait des pas, effectivement, mais je vois par votre collaboration, entre autres, avec Léa...
Clermont-Dion,
c'est ça. Qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de luttes, et sûrement que vous avez vécu vous-même, peut-être aussi des difficultés, là, justement,
ben voilà.
Dans votre vie.
Donc, tout à fait, tout à fait. Puis avec Léa, ben, on fait un podcast, nous, sur. On invite des gens qui ont écrit des livres, justement, ça s'appelle On se livre. Puis on a des gens de toute allégeance, là, de qui travaillent sur plein de sujets différents, mais dont des gens des femmes qui parlent de féminisme, parce que effectivement, là, on parlait du spectre au sud de la frontière, mais on voit qu'il y a des droits sont révoqués. On a vu l'arrêt Roe versus Wade qui donnait l'accès à l'avortement, l'arrêt de la Cour suprême aux États-Unis qui a été révoqué. Donc, c'est des droits qu'on pense qui sont universels, qu'on pense que, bon, c'est acquis maintenant, on peut s'asseoir un peu sur nos lauriers ou se croiser les bras parce que ça, maintenant, cette lutte-là, elle est faite. Mais c'est pas fait encore. En ce moment, autour de M. Trump, c'est principalement des hommes qui prennent des décisions pour les femmes, dans le fond, c'est qu'ils prennent des décisions pour la population, puis ils sont une minorité, puis je dirais des hommes, mais pas juste ça, c'est des milliardaires. Non. C'est même pas juste des millionnaires, c'est des milliardaires qui prennent des décisions pour eux-mêmes. Donc, pour moi, le féminisme ou la lutte pour la justice sociale, ça doit regarder tous les aspects. Puis là, j'écris un texte en ce moment pour Le Devoir qui va être publié dans quelques jours sur la nouvelle décision, le nouveau programme là, de M. Trump qui veut donner un accès accéléré à la citoyenneté aux personnes qui peuvent payer 5 millions de dollars. Donc, si tu es, par exemple, un Indien ou un Allemand, puis tu as 5 millions de dollars, tu peux t'acheter la citoyenneté américaine. Mais c'est fou, dans un monde où M. Trump n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de place, qu'il y a trop d'immigrants, il faut les renvoyer, il faut les expulser. Mais là, si tu as de l'argent, par exemple, c'est correct. Donc, c'est ça, on voit vraiment que quand tu es riche, tu peux t'acheter des politiques. Quand c'est des personnes riches, là, quand je parle de riches, là, c'est très, 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 très riche, là, le 1%. Là. Quand ces gens-là sont au pouvoir, ben, évidemment, ils vont adopter des politiques puis ils vont favoriser leur classe sociale. C'est sûr. Que la majorité d'entre nous, là, on n'est pas dans leur ligne de mire. Là. On ne sera pas très, très supportés, disons.
Et justement, dernièrement, il y avait, parce que je vous suis sur votre page Facebook, là, on dit quand le vent tourne à droite, il faut lever les voiles vers la gauche. Je pense que cette conférence-là résume bien en une phrase ce qui se passe présentement, pas juste aux États-Unis, dans l'ensemble du monde actuellement.
Tout à fait. Non, mais il faut se lever parce que on peut le regarder, on peut le critiquer, mais le cynisme, c'est pour les privilégiés. Là, on peut pas s'asseoir sur nos lauriers dans le sens où c'est Joanne Liu, l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, qui est venue à notre podcast avec Léa, qui disait ça, puis ça m'a marqué. C'est comment est-ce que être cynique, tu peux être cynique seulement si tu es privilégié, si tu peux t'asseoir sur tes lauriers et regarder le monde brûler, mais en ce moment, on dit la montée de la droite, on a la désinformation, il y a des minorités qui sont affectées partout dans le monde, tu sais que... Donc, c'est important qu'on en parle, qu'on se lève, que la gauche fasse quelque chose. Là, c'est le temps de se mobiliser. Là, c'est pas dans 5 ans quand finalement le parti de M. Trump va avoir élaboré toutes les politiques fascistes dont il parle. En ce moment, faut le dire, faut nommer les choses. M. Trump adopte une idéologie fasciste. Oui. Ça ne veut pas dire que aux États-Unis, en ce moment, il y a un gouvernement nazi. Ça veut dire que l'idéologie qu'il prône, c'est le nativisme, par exemple. C'est de dire, ben, il y a juste les gens nés aux États-Unis qui sont d'une certaine couleur, qui sont assez riches, qui peuvent être citoyens à temps plein. Il y avait en France aussi, là, pendant longtemps, Madame Le Pen du Rassemblement national, mais aussi Nicolas Sarkozy parlait de la priorité nationale ou la préférence nationale. Il y avait toute une politique qui n'a pas été adoptée finalement, mais qui dirait, pour certains services sociaux, seulement les gens nés en France peuvent avoir accès. C'est très dangereux, là. C'est ça, c'est une politique fasciste là, qui mène à l'élimination des minorités, là. Donc c'est très dangereux en ce moment.
Et en Allemagne actuellement aussi.
Exactement.
Là, cette menace-là, même si le parti d'extrême droite n'est pas au pouvoir, ils ont quand même une influence, ils ont augmenté.
Ah, tout à fait.
Alors donc, puis ici, ben, il y a des élections fédérales qui s'en viennent et certains aussi, gros bon sens, qui a plus de chances d'aller vers la droite, là.
Oui, exactement, exactement. En ce moment, le mouvement qu'on voit, c'est clairement vers la droite, puis même si des partis, même ici au Québec, le parti de M. Duhem a eu 10% 15% à la dernière élection, c'est autant que le Parti Québec solidaire de la gauche qui se veut un parti de justice sociale. C'est très préoccupant, là, comme là où le discours public s'en va. Je dis pas que c'est illégitime de voter pour ces partis-là, mais faut quand même se poser la question, comment est-ce que la gauche peut faire, comment est-ce que les partis progressistes peuvent faire pour faire que leur projet parle aux gens. Je pense qu'en ce moment, tout le monde constate que le système est brisé, l'inflation est dans le tapis, notre pouvoir d'achat descend, on voit que le monde, il y a plein de crises, il y a plein de guerres, mais comment on fait pour mobiliser cette rage-là vers plus de justice sociale et non pas vers un individualisme où on pense à nous-mêmes, on pense à c'est mon char, mon choix, on est là en train d'accuser les immigrants de tous les maux. Donc, c'est vraiment important d'essayer de voir là, comment est-ce qu'on peut avoir une société qui évidemment accueille pas toute la misère du monde, mais qui est quand même plus ouverte ou en tout cas qui n'est pas fermée à l'autre, aux autres personnes.
Évidemment aussi un beau texte que vous aviez fait aussi dans Le Devoir qui s'adresse à votre fille, parce que évidemment, mm-hmm. on ne veut pas à l'international, on pense à la bande de Gaza, que M. Trump d'ailleurs voudra voir faire un beau resort de vacances là dans ses folies comme telles. Il reste quand même que vous êtes aussi sensible à ce qui se passe à l'international et justement de dire ben comme mère, voyez votre fille qui pourrait être là aussi là comme d'autres
ouais.
enfants.
Exact. Non, mais moi, ça me touche vraiment parce que depuis que j'ai un enfant, surtout, je pense que tous ceux qui ont des enfants peuvent comprendre. Puis même quand t'as pas d'enfant, je pense que quand t'as des enfants dans ton entourage, de constater comment, surtout avec Gaza, ce qui se passe en ce moment, c'est on le voit tous les jours sur les médias sociaux. On a des vidéos parce qu'il y en a tellement que les médias sociaux comme Facebook n'ont pas le temps de faire le tri pour pas qu'on les voit, parce que normalement, c'est ce qui se passe. C'est, normalement, on les voit pas, ces vidéos-là, parce que il y a un tri et les vidéos trop violentes, ils sont supprimées. Mais en ce moment, il y en a tellement qu'on les voit. On voit des cercueils d'enfants, on voit des enfants dans des sacs, des enfants qui ont eu des obus, qui ont des visages déformés, qui manquent de membres. Pour moi, là, à chaque fois que je vois ça, depuis que j'ai un enfant, je pleure souvent, là, souvent, ça me touche tellement. Puis, tu sais, on a un rôle à jouer, ce qui se passe à l'international. C'est pas si loin que ça de nous. Il faut vraiment réaliser comment est-ce qu'on est tous reliés dans le monde dans lequel on vit, que nos choix, les décisions de nos gouvernements ont un impact. Si on va aider ou pas, si on accorde trop d'importance, par exemple, au gouvernement de Benjamin Netanyahou en Israël, le Canada a supporte encore le gouvernement israélien, alors que passe en ce moment, c'est un génocide. Donc, c'est vraiment c'est horrible de voir ce qui se passe, puis c'est horrible de voir l'inaction de nos gouvernements, puis même l'inaction, je dirais, au sud, aux États-Unis, c'est même pas de l'inaction, là, c'est de l'action pour des perpétrateurs. Là, M. Trump disait que la guerre en Ukraine, par exemple, a été créée par l'Ukraine, alors que tout le monde sait que c'est l'invasion de la Russie qui a créé la guerre. Mais c'est comme le discours, pour moi, est très important. On parlait de médias tantôt. C'est très important de comprendre que les discours publics ont un impact sur, après ça, les décisions de nos gouvernements, sur ce que nos gouvernements peuvent faire, puis sur la résolution des crises. Donc, c'est super important. L'un est vraiment lié à l'autre.
Et dans les prochains projets, je sais qu'il y a eu les salons du livre, votre livre a été dans les prochains projets de rencontres ou de balado ou de conférences, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, Maïka?
Ah, ben il s'en vient. Le podcast, surtout, là, on travaille beaucoup là-dessus. On a reçu notamment Fabrice Ville, Nathalie Platte qui habite à Sherbrooke, d'ailleurs, dans le Nord. Okay. Et ça va sortir dans les prochains mois. Sinon, ben je m'en vais à Madagascar, justement, avec mon père. On va aller voir la famille. Ça fait longtemps, ça fait 15 ans qu'on n'est pas retourné parce que c'est très très dispendieux. Puis parfois, politiquement, c'est plus difficile d'aller, mais là, on va là. Donc, la session se termine. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais j'ai espoir de bientôt ramener le petit bébé Aïna à voir sa grand-mère à Sherbrooke dès que ça va se calmer un peu.
Ben c'est super. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire en complétant, je sais qu'on le temps passe vite. Et puis, l'autre jour, quand vous êtes venu à Sherbrooke, je ne dis pas ça pour être gentil, là, je le pense sincèrement, puis beaucoup de gens, c'est que on disait, bon, professeur d'université, va s'asseoir à son petit micro et va nous parler. Mais vous êtes à travers les gens, vous êtes une femme qui, justement, rendait accessible. Puis je dis ça, comme je dis, je ne dis pas ça pour être gentil, là. Je le dis parce que je le pense, là, parce que c'est vrai. Puis d'ailleurs, les commentaires qu'on a eus, vous êtes une femme qui est proche du monde et votre message aussi s'adresse à la population. Ça, Et je pense que pour nos auditeurs, auditrices, c'est important aussi à la radio communautaire de vous recevoir, puis de vous féliciter pour ce travail, puis de continuer d'être encore, justement, une porte-parole, justement, signifiante pour les gens. Puis je vous remercie ce matin là, du temps que vous nous donnez.
Bien, merci beaucoup, puis merci de l'invitation. Puis ça va me faire plaisir de revenir à Sherbrooke dans les prochains mois.
N'importe quand. Et aussi, d'ailleurs, donc on peut vous suivre. Évidemment, on rappelle qu'avec Gérald Filion, qui est, qui est une icône de la télévision, on peut dire, à RDI. Alors, et aussi sur Dans le Devoir.
Ben oui, Dans le Devoir. Puis c'est pas me suivre sur les médias sociaux. Là. Souvent, je partage ce que je fais, les publications, puis les articles, tout ça. Donc, Facebook, Instagram, tout ça. Puis sinon, RDI l'après-midi.
Et bien sûr, votre page Facebook où on peut voir aussi. Alors, encore une fois, merci beaucoup de votre passage. Et comme je vous dis, Sherbrooke est toujours prêt à vous accueillir. Merci beaucoup, Michael.
Merci à toi, bonne fin de journée.
Il est midi 30 minutes.
Hey, le voisin! Es-tu en train de planter un arbre en dessous des fils électriques?
Ouais, pis?
Ben, quand il va pousser, il pourrait se prendre dans les fils, puis faire planter le courant, faire planter la lumière, faire planter l'Internet.
Ah ouais?
Faire planter l'électricité pour tout le voisinage.
Et je pense que je suis en train de me planter, là.
Un grand nombre de pannes d'électricité sont causées par des arbres.
Oh, pélaï, on veut pas ça.
Plantons le bon arbre au bon endroit. Ensemble, évitons les pannes. Pour en savoir plus, visitez hydroquebec.com/arbre. Hydro-Québec, c'est à nous.
Suivez chaque semaine Rendez-vous Nature, l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air au Québec.
Ici Ernie Wells, amateur de plein air. Suivez-moi dans les sentiers de la chasse et de la pêche, partagez mes entrevues avec les gestionnaires de la faune et des territoires phoniques et écoutez les conseils de nos spécialistes.
Rendez-vous Nature, présenté le lundi à 17h à CFLX-FM, Sherbrooke.
Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.
Prêtez l'oreille à notre émission Diapason. Depuis de nombreuses années, je vous propose les dimanches matins en musique classique. Désormais, de 9h à midi, venez vous reposer en appréciant les grandes œuvres des grands compositeurs. Quelles que soient vos occupations, parlez-en aussi à vos amis et connaissances qui aiment découvrir ces belles œuvres. Ensemble, découvrons Diapason.
Pas pire la musique sur CFLX 95.5 FM.
Et pas seulement que la musique qui est pas pire, c'est aussi les sujets discutés. Donc, pour cette deuxième moitié de la dernière de la saison, ben on reçoit avec nous Mario Mercier de l'Association des locataires de Sherbrooke. Bonjour Mario.
Bonjour Alain.
Les vacances s'en viennent, là?
Oui.
et c'est curieux parce qu'évidemment, lorsqu'on j'ai travaillé 16 ans à l'association locataire, était là aussi depuis plusieurs années, les gens disaient « Bon, mois de juillet, c'est le fun, il y a des vacances. » D'autres, on disait « Non, non. » Et voilà, depuis deux ans, deuxième année, je pense, là, trois vacances, mais je pense que des fois, toi comme Mario ou Isabelle, là, vous aimeriez autant travailler avec tous les besoins qu'il y a, hein?
Oui, puis il y a tout l'aspect justement du 1er juillet. Là, deux ans, c'est qu'on était dans la gestion du centre de crise. On cherchait des logements pour les gens qui étaient sans toit. Aujourd'hui, on travaille très fort pour que les services soient rendus par la ville de Sherbrooke,
oui.
qu'elle donne une publicité adéquate pour annoncer ses services et qu'il n'y ait pas de critères autres que on est dans la rue, on doit être aidé par la ville de Sherbrooke. On a vu que ça a eu des résultats,
oui.
Et on s'en réjouit.
Depuis deux ans, d'ailleurs, chaque année, on dirait, hey, oh, c'est vrai, il y a le 1er juillet. Tout d'un coup, il y a quelqu'un à l'hôtel de ville ou l'office municipal qui dit, ah, mon Dieu, il y a le 1er juillet, ça en vient. Puis ça fait deux ans que ça provoque ça, puis c'est le fun, effectivement.
Oui, puis néanmoins, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'on a vu sur Internet l'annonce des services. On a vu la ville de Sherbrooke directement dire, nous passons par le service d'aide à la recherche de logement. comme porte d'entrée pour les services qu'on offre au 1er juillet. C'est ça qu'on voulait, entre autres, que ce soit fait. On se réjouit. On rappelle aux gens qui sont en danger d'être à la rue au 1er juillet d'appeler l'Office municipal d'habitation au 5... j'ai peur de me tromper. Là. On appelle l'Office municipal d'habitation ou on les rejoint en ligne à sherbrooke.ca 1er juillet. Ou si vous ne réussissez pas à avoir la ligne ou chose, vous êtes la priorité dans le sens que vous êtes un citoyen. Et ben vous contactez la mairie ou votre
conseiller municipal, conseiller municipal, quelqu'un là.
Et c'est ça. Puis vous êtes le centre et vous êtes supposé être la personne importante, ben insistez pour avoir la ligne, insistez pour les contacter, puis insistez pour avoir des services.
Effectivement, d'ailleurs, c'est ça, je pense qu'on a pu voir aussi sur notre page d'association ou la page du CA, on parle d'une quinzaine de personnes. Bon, les chiffres varient, évidemment, dernièrement, quasiment il y a eu un miracle. Là. Tout le monde va vouloir déménager à Sherbrooke parce qu'on est parti de 82 à 8, là, mais bon, ça, évidemment, c'est toujours embêtant, ces chiffres-là. Là, hein?
C'est sûr que nous, on n'est pas à l'interne. Les journalistes me demandaient est-ce que les chiffres qui vous ont apparu vous paraissent corrects, mais on ne sait pas. On voit qu'il y avait à l'époque une anomalie bizarre, là, dans le sens qu'il était 150 à Drummondville, puis quelques-uns à Sherbrooke. Là.
Ouais, c'est ça.
Drummondville est plus petit que Sherbrooke, puis je pense pas que la crise du logement arrête aux frontières de Sherbrooke et que à Sherbrooke tout va bien.
C'est ça.
Mais l'important pour nous, c'est qu'on fasse la publicité, qu'on rende des services. Et si on vous offre pas un service correct, qu'on vous discrimine ou faire des choses, ben appelez-nous, puis on va répertorier votre voix, puis appelez à la mairie si ça ne se passe pas comme il faut. Là.
Effectivement, puis justement, là, parfois aussi, puis je pense que ça avait été souligné là, lors des conférences de presse pour le 1er juillet, ce que toi et Normand aussi vous donniez, c'est qu'il y a des gens, peut-être moins de monde là, qui cherchent de logement parce que les gens ne quittent pas leur logement, parce que le quitter, c'est très dangereux.
Oui, oui. Puis à Sherbrooke, entre autres, la mobilité immobilière, les gens quittent pas leur logement, ils déménagent de moins en moins, deux fois moins qu'avant la crise importante qu'on connaît actuellement. Fait que ça a un effet, les gens ont peur, peur de se retrouver à la rue.
Et si on voit dans les grands dossiers, évidemment, l'autre jour, je faisais des farces avec Normand, puis je faisais faire aussi la cathédrale, la basilique Notre-Dame à Paris, c'est plein que l'idée Sainte-Famille à Sherbrooke est plus importante dans les médias qu'eux autres. Effectivement, ce dossier-là, je pense, au niveau de l'Association des locataires, cette année, a pris une grande importance aussi.
Oui. Puis il y a des gens qui se posent la question si ça sert à quelque chose de manifester puis de montrer du bruit. C'est que finalement, la position de la ville de Sherbrooke, c'est celle qu'on demandait à la ville de prendre.
Et ça, c'est merveilleux, hein?
Oui, c'était de ne pas vendre un bien public au privé. Que si ça pouvait pas être une bibliothèque, ça pouvait être du logement, mais il y a quelque chose à faire. La ville a pris cette responsabilité-là par rapport à la vente. Il y a une clause comme de quoi le bâtiment ne doit pas être détruit. Ben, c'est sûr que si le bâtiment ne doit pas être détruit, c'est mieux qu'il reste dans les mains de la ville de Sherbrooke parce que on ne sait pas qu'est-ce qui se passerait si on le vendait au privé. Fait que d'une certaine façon, respecter ses engagements, c'est une bonne idée, hein? Demander quelle est la position des citoyens, que ça devienne un débat public, et ça nous amène peut-être dans la campagne électorale municipale.
Oui,
nous, on se réjouit du nombre impressionnant de candidats qui se présentent à presque tous les postes.
Exactement.
Qui se présentent à la mairie.
On pense
qu'on va avoir un vrai débat. Il va y avoir un véritable choix.
Puis une véritable élection. Lorsqu'on parlait avec Norman l'autre fois, puis moi, j'ai dit que la pire élection de ma vie, j'ai 72 ans, moi, je suis passé 50 ans, je vote, puis c'est l'élection fédérale, là. Plus plate que ça, tu meurs, là. Tu savais que c'était pour gagner, là. C'était un peu comme si mon petit-fils de 3 ans va t'affronter à la lutte, Mario, là. C'est la même chose, t'sais, on savait que gagnant, là. Fait que là, je pense qu'il va y avoir une vraie élection.
Oui. Et nous, on a des propositions. Entre autres, on veut qu'on fasse du logement social avec l'Église Sainte-Famille.
Oui.
On veut que le logement devienne une priorité. On veut que réavoir notre subvention de 50 000 pour offrir un service aux citoyens de Sherbrooke sur le logement. Et on veut aussi une mairie qui soit ouverte. Depuis toujours, on avait accès, on demandait une rencontre avec à la mairie, avec avec le maire en place. Des fois, c'est une mairesse, des fois, c'est un maire. Mais on avait un contact, et puis il y avait une certaine ouverture. Là, maintenant, l'ouverture, elle était absolument absente dans les dernières années. On aimerait que la mairie soit à l'écoute des citoyens et que quand on demande une rencontre pour discuter de projets concrets dans la population, on puisse avoir une oreille attentive et en discuter avec le conseil de ville, en discuter avec la mairie, en discuter avec l'ensemble des gens qui seront élus.
Et ce qui est le fun,
on veut que la ville soit à l'écoute de ses citoyens.
Ce qui est le fun, il devrait y avoir des élections à tous les ans au moins. Parce qu'on regarde actuellement, tu as probablement vu, entre autres, le programme de Vision Action Sherbrooke comme tel, qui vise quand même là, pas mal 2500 logements par année, puis chaque année. Ça ressemble un peu au programme d'il y a 4 ans d'un autre parti, ça?
oui, je dirais, nous, on est pour rencontrer l'ensemble des groupes. On a rencontré, entre autres, des indépendants. On a rencontré des représentants de Vision Action Sherbrooke. On est en prêt ouvert à rencontrer tous les candidats de tous les horizons politiques qui se présentent dans la prochaine campagne électorale. On espère participer, on a nos revendications, on a notre vision et notre analyse. Puis, ce qu'on peut dire aux gens qui se présentent, peu importe les niveaux où ils se présentent, après l'élection, on regarde un projet comme construire 1000 logements sociaux par année, ben sans le financement des gouvernements supérieurs,
exactement,
c'est franchement impossible.
C'est ce que disait d'ailleurs justement le conseil de ville cette semaine, là, mis sur le logement hors marché. Bon, ça prend des logements. Mais effectivement, c'est le constat, entre autres, Geneviève Laroche le disait, c'est que le programme FAC là, de Mme la princesse du logement,
Duranceau,
ça vaut pas de la...
Oui, puis on regarde, justement, il y a une politique sur l'habitation qui va être donnée à Sherbrooke. On parle de 20% de logements hors marché. Ben ça, cette politique-là, pour qu'elle ait un concret, il y a l'air d'avoir une certaine unanimité à Sherbrooke, de quoi il faut rehausser rapidement le logement social. ben cette réalité-là va être juste possible si les gouvernements fédéral et provincial mettent l'épaule à la roue et débloquent des sommes importantes. Ça fait que nous, on peut déjà annoncer aux gens qui de la ville qui seront les élus notre appui complet pour que les gouvernements supérieurs fassent leur job. C'est pas les municipalités qui sont des freins au développement du logement social, c'est les gouvernements supérieurs, particulièrement le gouvernement du Québec.
Oui.
J'ai regardé la dernière année, s'il y a eu de la construction, c'est parce qu'il y a eu des sommes fédérales qui ont été débloquées.
Exactement. Et ça, c'est ça. Puis parce que cette volonté-là, puis, bon, c'est que lui, puis c'est le fun quand même, comme je disais, ils ont Action Sherbrooke, ressemble au programme un peu il y a 4 ans de Sherbrooke Citoyen. Bon, cette belle volonté-là, puis je pense que aussi les candidats indépendants, indépendantes aussi, le font aussi, mais il faut qu'après les élections, parce que c'est toujours ça qui arrive, c'est que là, aux élections, comme l'ensemble de Félix Leclerc, il t'appelle fiston, après j'espère qu'ils vont se souvenir de notre nom.
Oui, c'est ça. Oui, puis on regarde l'année, justement, on parlait du logement puis de l'environnement comme priorité pour adapter la ville de Sherbrooke à l'environnement, au changement climatique, éviter les inondations. Ben, il faudrait, entre autres, s'assurer que la ville ne soit pas imperméable, qu'il n'y ait pas de l'asphalte et du ciment partout comme à l'heure actuelle. Ça demande des sous. Ben, si c'est le logement puis l'environnement qui est les priorités, ben, il va falloir que il y a une fiscalité puis que les villes aient des sous pour pouvoir faire ce qui est dans leur projet, donner des services aux citoyens. Il va falloir que les villes aient des sommes plus importantes pour leur développement. Finalement, Québec dit oui, vous devriez vous occuper de ça, vous devriez vous occuper de tout, mais l'argent ne vient pas, la fiscalité, le 1% de la taxe
TVQ,
c'est promis, mais ça arrive jamais.
Non, c'est ça.
Il y a tout un travail, les élus, s'ils veulent, comme je dirais, respecter leur programme électoral, même ceux qui sont présentés dans des peu importe l'endroit où ils sont élus, s'ils veulent qu'on passe des théories à l'acte, on passe à l'action, ils vont avoir besoin que la ville de Sherbrooke puisse avoir le pouvoir de dépenser suffisant pour donner les services qu'il faut à la population.
Et tout au cours des derniers mois, Mario, même si l'association locataire ne donne pas comme tel de services individuels, si on peut dire, tu as pu constater, à travers plusieurs conférences, et toi qui étais pas mal responsable de faire le tour des différentes villes, tu as pu voir quand même, puis même aussi avec les rencontres individuelles lors du calcul des augmentations, il y a une énorme détresse chez les locataires actuellement.
Oui. On a fait un travail plus collectif. On a rencontré, entre autres, les différentes tables de quartier de Sherbrooke. Pas tous, mais plusieurs. On a rencontré des groupes qui aidaient aux réfugiés, qui aidaient pour les personnes en alphabétisation. On a rencontré des gens qui s'occupaient de l'apprentissage du français, de la francisation. On a rencontré des comités qui se formaient sur des complexes immobiliers. On a rencontré des gens dans des blocs appartements. Tout ce travail-là nous a montré toute la détresse des gens, à quel point les propriétaires réussissaient, malheureusement, il faut le savoir, à contourner la loi, à donner des augmentations de loyer beaucoup plus importantes que ce que proposait le tribunal administratif du logement, tentait d'expulser les gens sur des faux prétextes en parlant de rénovation majeure, alors que dans le cas de rénovation majeure, on conserve le droit au logement, on a droit à une indemnité et ça ne permet pas normalement aux propriétaires d'expulser leurs locataires. Fait qu'il y a eu ce travail collectif qu'on a fait, puisqu'on n'avait malheureusement pas les sous pour faire un travail, puis de rencontrer, puis de suivre, comment je dirais, tous les dossiers que les gens avaient. Malheureusement, faute de financement, on a néanmoins vu la centre de la détresse, oui, puis de l'angoisse, puis du travail qu'il y avait à faire et à quel point le droit au maintien dans les lieux, le droit à avoir des augmentations de loyer raisonnables, le droit à avoir une quiétude normale, c'est domicile. Avoir un loyer, là, t'es supposé d'être chez toi.
Supposé, oui.
Pour avoir un loyer. T'es pas supposé de te faire déranger à tout bout de champ, le propriétaire qui vient voir la couleur de tes yeux. Non, oui. Non, c'est ça, avoir une vie personnelle, pas se sentir comme un intrus dans ta propre logement. Toutes ces choses-là sont pas respectées. Il y a un mépris même de la notion de domicile. T'sais, le domicile, l'endroit où tu restes, là, c'est supposé être ton château fort.
Supposé.
L'endroit, là, un château fort, là, c'est un pont-levis, c'est un endroit. Si ton propriétaire rentre n'importe quand dans ton appartement, la notion de domicile là, est un problème. Là. Moi, j'ai vu, quand j'ai fait mon droit... même un gars de la mafia, quand la police rentre sans se faire indiquer, il y a un policier qui se fait tirer un pruneau au milieu du front. Ben, le juge a considéré que la personne n'avait pas le droit de rentrer n'importe quand. Ça fait que si les droits des gens de la mafia sont protégés, ben, je pense que le droit des locataires à avoir une vie privée, à jouir de leur appartement correctement, de pouvoir faire leur vie comme ils veulent dans leur appartement, ben ça devrait être respecté aussi.
Et juste exemple... lors d'une action, j'étais dans l'entrée, puis il y a une dame qui voulait parler à quelqu'un, puis qui racontait justement parlant que après 3 ans et demi que son barbecue sur sa galerie, tout d'un coup, un des propriétaires choisit la fête des mères pendant que tout le monde célèbre pour dire qu'il faut qu'elle enlève. Il a allumé, le barbecue a allumé, mais lui, il a allumé aussi qu'il en voulait plus. Tu sais, c'est ça. Quand on parle d'intrusion, là, sauvage, qu'on peut dire, c'est ça, n'est une, c'est un exemple frappant, là.
Oui, oui. Puis, quand on se retrouve avec une demande au tribunal administratif pour se débarrasser de son chien ou de son chat, ouais, dans le but, des fois avoué, des fois inavoué, de mettre à la porte le propriétaire du chien ou du chat, ouais, ben, il y a un petit problème parce que normalement, t'as le droit au maintien dans les lieux. On ne doit pas chercher un prétexte pour te mettre à la porte. On voyait l'article du Devoir,
ouais,
où on s'en prenait aux gens qui issus de l'immigration parce qu'on pensait qu'ils ne pouvaient pas se défendre. On leur disait
qu'il y a
un bail de privilégiature.
C'est épouvantable, ça. C'est épouvantable, ça. Là. Donc,
vous êtes en vacances.
Il y a encore de l'ouvrage à faire. Puis ce qui est intéressant, on complète là-dessus, déjà le temps avance, il y a eu quand même une bonne mobilisation des membres aussi cette année. Devant
oui,
tout ça.
On a invité nos membres à participer à de nombreuses activités et ils ont toujours dit présents. Et on a un chapeau à lever à nos membres,
ouais,
qui se mobilisent puis qui veulent que la situation change puis que la socialisation, entre autres, qu'on puisse avoir des idées pour sortir des crises du logement et qu'on construise de plus en plus de logements sociaux pour permettre aux gens de vivre puis de pouvoir de se payer, se nourrir, se loger, se médicamenter, puis avoir un peu de loyer, que tout ne passe pas sur le prix du loyer.
Alors, bien sûr, avec les élections municipales à l'automne, il va y avoir du pain sur la planche pour les revendications. On parle du dossier, tu as pris la parole justement le 7 juin dernier, devant le bureau de Mme Hébert, ce beau gouvernement qui nie le racisme systémique, justement, le droit. Tout à l'heure aussi, on en parlait avec Maïka, la rediffusion de son entrevue. On met ça sur le dos des personnes immigrantes, le logement. Certains partis politiques le font. Et je pense qu'il faut le redire que c'est pas eux autres le problème. Hein?
Oui, oui, puis quand on parle de racisme systémique, ce qu'on voit justement avec comment on traite les immigrants, ben quand on voit le tribunal administratif refuser d'appliquer la loi, se fermer les yeux, dire que le contrat passe par-dessus la loi par rapport au bail, on voit de déni de... Bien, on voit que le racisme systémique au tribunal administratif du logement, c'est un vrai scandale. On se refuse même quand, à appliquer véritablement la loi. Moi, quand il y a quelqu'un qui refuse de faire sa job, là, je pense qu'il devrait être mis à porte.
Exactement.
Ça n'a pas d'allure que ça se passe de même au tribunal administratif du logement.
Alors, Mario, merci de cet éclairage. Donc, évidemment... On va suivre comme tel, aujourd'hui c'est la dernière de la saison de l'émission, mais de toute façon au cours de l'été, l'actualité sera là. Et puis justement, s'il y a des sorties de l'Association locataire, on suit sur entre autres la page Facebook de l'Association des locataires comme tel. Merci Mario, ton éclairage et puis bien sûr...
Bonnes vacances!
Merci à toi aussi là! Bye-bye! Alors Mario, merci de l'association, merci beaucoup Mario, merci bien sûr d'avoir réentendu cette magnifique entrevue avec Maïka. L'émission d'ailleurs de demain sera sur notre site internet en rediffusion sur le balado. Donc voici donc cette dernière de la saison. Merci à toutes les personnes invitées qui ont passé à cette émission. Ça a été un réel plaisir bien sûr de vous recevoir. Monsieur la socialiste, mais aussi d'autres personnes comme Maïka et d'autres aussi qu'on a reçus au cours de cette saison. Alors, je vous laisse la programmation musicale de Saint-Félix, bien sûr, et suivez bien sûr toutes les actualités. Et particulièrement, allez sur la page, justement, il y a sur la page Facebook de l'association locataire tous les renseignements. Si vous êtes sans logement, notamment l'association a été... écarté de ça, là, mais il y a un service que la Ville doit donner et qu'elle donne. Alors, il faut le rappeler et ne pas hésiter à utiliser ces services-là. Alors, donc, je vous laisse là-dessus à la programmation. Merci de cette belle saison et puis, ben, au plaisir, bien sûr, de se reparler comme tel et de dire que le droit, le logement, c'est un droit pour le droit au logement, oui! Et on vous laisse à la programmation, comme vous dites, de Saint-Félix comme tel.
Il est midi
57 minutes.
Ce que j'aime avec les produits Origine Québec à la SAQ, ils respectent ma règle de trois préférée. Fait ici, par des artisans d'ici, avec des ingrédients d'ici. Et jusqu'au 24 juin, pour chaque tranche d'achat de 30$ de produits Origine Québec, on reçoit 3000 points Inspire. Fait que je vais pouvoir profiter de la fête nationale, déguster des produits uniques à nous, tout ça en économisant. On me l'a toujours dit que la règle de trois serait bien pratique. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, détails dans saq.com.
Vous aimez le cinéma et le plein air? Le cinéma en plein air de Sherbrooke vous propose plusieurs films dans tous les arrondissements. Il s'agit d'amener sa couverture, sa chaise, ses friandises préférées et le tour est joué. Tous les films sont gratuits. Ils débuteront...
Ici René Cochot. Vous cherchez quoi lire? Je vous suggère d'écouter mon émission littéraire Le Cochot Show, diffusée le dimanche de 13 à 15 heures et le jeudi de 14 heures à 16 heures. En voici un aperçu.
C'est un grand roman que j'ai adoré.
Un 5 étoiles.
Oh oui, moi j'ai clenché ça en deux jours. Là.
Même si je l'ai lu deux fois, la troisième, j'ai encore le goût de voir des images. Donc c'est dire, c'est un très 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 beau livre.
Condition actuelle, 25 degrés.
la radio pas pire, progressive.
C'est Félix 95.5 FM.
Chemin et la quête en vain.
Nous avons besoin de cœur et sans chemin et la quête en vain.
Et la quête en vain jusqu'à ce matin du cœur et un chemin. Oh!